Ok, alors à quoi pensez-vous lorsque vous entendez le mot église? Est-ce que vous pensez, comme beaucoup de gens, à un bâtiment, un lieu de culte, un édifice, un monument? Est-ce que vous pensez à une puissante institution? Est-ce que vous pensez au faste, à l'artifice, à la sophistication, vous savez? Ou bien au contraire, quand vous entendez le mot église, est-ce que vous pensez plutôt à l'austérité, la contrition, le silence, le froid? Est-ce que vous pensez, quand vous entendez le mot église, à l'obscurantisme, à l'oppression, à l'exploitation des faibles, à la manipulation des gens, ou bien au contraire, est-ce que vous pensez aux œuvres sociales ou à la solidarité quand vous entendez le mot église? L'église, beaucoup de gens en parlent, mais en fin de compte, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent exactement de quoi on parle. Est-ce que vous seriez capable d'expliquer ce que c'est que l'église à un non-croyant? Par où est-ce que vous commenceriez pour expliquer à un non-croyant ce que c'est que l'église? Alors on va se pencher sur ce sujet cet après-midi, cette branche de la théologie qu'on appelle l'ecclésiologie. Vous n'êtes pas obligé de retenir ce mot, mais simplement pour ceux qui connaissent un peu, l'ecclésiologie, c'est la branche de la théologie qui s'occupe de l'Église, de la doctrine de l'Église. Et c'est un sujet très très vaste. Vous savez, dans l'institution chrétienne de Calvin, le livre consacré, le tome consacré à l'Église, c'est le plus long. C'est le quatrième, c'est le plus long. Donc c'est un sujet très très vaste. Sur ce sujet, les réformateurs ont beaucoup réfléchi. Pourquoi? À cause des circonstances particulières qu'ils ont traversées. Vous savez, les réformateurs, au départ, ils n'avaient aucunement l'intention de se séparer de l'Église qui était instituée. Ils voulaient réformer l'Église en l'appelant à revenir à des pratiques, à des doctrines qui étaient bibliques, et puis en rejetant, ou du moins en critiquant fortement, ou en amoindrissant l'influence des traditions humaines. Mais quand finalement l'Église établie les a un peu mis à la porte, ils ont été forcés à ce moment-là de réfléchir à qu'est-ce que c'est que l'Église. Est-ce que parce que l'Église établie par l'organe de leurs autorités en place, est-ce que parce qu'eux nous ont mis à la porte, ça veut dire que nous, du coup, on ne fait plus partie de l'Église? Est-ce que nous, si on commence à se réunir en tant que chrétiens pour louer Dieu et qu'on s'organise comme institution peut-être parallèle, est-ce qu'on a le droit de s'appeler Église? Vous voyez? Les questions qui se sont posées. Et ils ont vraiment réfléchi à cette question en profondeur parce qu'ils ont été obligés de le faire. Qu'est-ce qu'il fallait penser, par exemple, des sacrements administrés par l'Église catholique romaine? Une théologie sacramentelle qui était très très développée, très très sophistiquée. Qui c'est qui devait être responsable maintenant? Qui c'est qui devait exercer l'autorité dans l'Église maintenant qu'on était séparé de l'Église établie? Et vous savez, à cause de cette réflexion qui a été un peu imposée aux réformateurs du fait des circonstances historiques qu'ils ont traversées, à cause de cela, l'ecclésiologie réformée est très solide et très riche bibliquement parlant, parce qu'ils y ont beaucoup réfléchi. Alors, en introduction, avant d'entrer dans le vif du sujet, je propose de considérer deux éléments qui pourraient nous être utiles en guise d'introduction. Le premier élément, c'est l'étymologie du mot église. Il s'agit d'un mot grec à l'origine. Quand vous le trouvez dans votre Bible, le mot église, c'est la traduction du mot ecclésia en grec et qui signifie assemblée, une assemblée de personnes. D'accord? Mais plus précisément encore, si on essaye de découper l'étymologie même du mot grec, on découvre que le sens précis, c'est un ensemble de gens qui ont été appelés hors d'un endroit. Avec le préfixe ex, sortir de, depuis, et lésia, si je ne me.
Caléo.
Clésia, c'est ça. Caléo. Appelé. Appelé hors de, quelque part. Le deuxième élément qui pourrait être utile, c'est la première apparition du mot Église dans le Nouveau Testament. Est-ce que vous savez où se trouve, pour la première fois dans le Nouveau Testament, le mot Église? Eh bien, c'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 18, où Jésus dit, dans ce fameux passage, il dit à Pierre, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Jésus dit à Pierre, « Je bâtirai mon Église. » La première apparition du mot Église dans le Nouveau Testament est précédée du pronom possessif « mon », et il s'agit de Jésus, l'Église de Jésus. L'Église, c'est donc à la base un ensemble de gens appelés hors de quelque part pour appartenir à Jésus. Notez la similitude avec ce verset du Deutéronome, et c'est très très intéressant. Deutéronome 4, verset 20. « Vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous soyez un peuple qui soit son héritage, ou dans d'autres traductions, qui lui appartienne en propre, à Dieu, hein, comme vous l'êtes aujourd'hui. Vous voyez la similitude entre Ecclésia, un ensemble de personnes appelées hors de quelque part, hors d'un endroit, et puis ce verset emblématique dans le Deutéronome où Moïse parle du peuple qui était sorti d'Égypte pour appartenir à Dieu en propre. Et l'Église, on peut le dire, c'est le peuple de Dieu dans le Nouveau Testament, c'est le peuple qui porte son nom, c'est le peuple qui a une relation privilégiée avec lui, c'est le peuple qui lui appartient en propre. Et à la tête de ce peuple, il y a Jésus, c'est son Église. D'accord, voilà, ça c'était pour l'introduction. Maintenant, entrons dans le vif du sujet, vous avez les plans. Premièrement, la nature de l'Église. Comment est-ce qu'on va reconnaître ce peuple? Quelles sont les marques, quelles sont les caractéristiques de ce peuple qu'est l'Église? Qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui sont dans ce peuple et ceux qui ne le sont pas? Eh bien, à cette question, vous savez, je vais peut-être vous surprendre, mais la Bible, en réalité, n'apporte pas de réponse facile. La Bible n'apporte pas de réponse facile, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Quand la Bible parle de l'Église, elle en parle de différentes manières. Et ça, c'est vraiment un principe dont il faut se souvenir. Quand vous voyez le mot « Église » employé dans la Bible, sachez que ça ne veut pas toujours dire exactement la même chose. Le mot signifie des réalités quelque peu différentes en fonction du contexte dans lequel il est employé. Alors voici comment on a distingué les choses en théologie réformée. D'accord ? Le fruit des réflexions de ces réformateurs qui ont lutté avec ces concepts, avec ces idées. Premièrement, on va parler de l'Église historique, ou l'Église, dite en théologie, l'Église visible. Entre parenthèses, je ne vais pas lire toutes les références bibliques, parce que ça prendrait plus de temps et je crains qu'on n'ait pas le temps cet après-midi. Mais les références, vous les avez sur les feuilles, donc vous pourrez les consulter ou si vous voulez les consulter rapidement comme ça, à côté, il n'y a pas de problème. L'Église visible, un ensemble de gens qui se disent chrétiens. Impossible de savoir si ce sont en réalité de vrais chrétiens ou des hypocrites. Tout ce qu'on sait, c'est que ce sont des gens qui se disent chrétiens. Comment pouvez-vous vérifier si la foi d'une personne est vraiment authentique? Dieu seul le sait. Dieu seul sait si l'Esprit habite dans cette personne. Dieu seul sait si cette personne a été élue avant la fondation du monde pour appartenir à Dieu. Dieu seul sait si telle ou telle personne est inscrite sur le livre de vie. Nous, on ne peut pas consulter aujourd'hui le livre de vie. Alors, quand on parle de l'Église visible, on parle de cet ensemble de personnes qui, apparemment, ce sont des chrétiens. Ils se disent chrétiens. C'est une Église qui est imparfaite. Parfois elle est corrompue, parfois elle croit à des doctrines qui sont totalement à côté de la plaque. Parfois dans l'Église même, il y a des gens qui sont de purs hypocrites, Dieu le sait. Parfois il y a des gens qui ont beaucoup de défauts, mais qui sont quand même sauvés, régénérés. Comment est-ce qu'on peut faire le tri, nous? On ne peut pas. On parle de l'Église visible, le peuple qui apparemment porte le nom de Jésus-Christ. Mais on parle aussi de l'Église invisible. Invisible ou, pour employer un terme un peu théologique, l'Église eschatologique, l'Église qui sera révélée à la fin des temps, l'Église qui est le peuple de Dieu pour l'éternité, l'Église qui habitera la nouvelle terre. Ça, c'est l'ensemble des gens qui sont élus, qui sont inscrits sur le livre de vie. Ce que Dieu connaît, mais que nous, aujourd'hui, dans l'histoire, à cause des limites de notre intelligence, de notre compréhension, on ne les connaît pas. Vous savez, en fait, cet usage du mot « Église » dans la Bible, pour désigner l'ensemble des élus, c'est un usage assez rare. C'est un usage assez rare dans la Bible, mais on l'emploie beaucoup plus couramment en théologie. Alors il y a peut-être un petit décalage là entre l'emploi qu'on fait du mot « église » en théologie et l'emploi qu'en fait la Bible. En réalité, c'est assez rare. Si vous regardez Éphésiens 5, versets 25 à 27, c'est le passage où Paul dit que Jésus s'est livré lui-même pour l'Église, et qu'il a racheté l'Église pour la purifier, pour la sanctifier, la faire paraître devant lui sans ride ni tache, etc., glorieuse. Là, on parle de l'Église de la fin des temps, l'Église qui sera, à l'intérieur de laquelle il n'y aura plus d'hypocrites, il n'y aura plus de défauts, l'Église que Jésus lui-même aura sanctifiée et préparée pour la gloire du ciel. Et cette Église-là, on dit qu'elle est invisible, mais quand on dit qu'elle est invisible, c'est parce qu'elle est invisible pour nous, mais elle n'est pas invisible pour Dieu. Dieu la connaît. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Et d'ailleurs, ceux-là seront révélés un jour. Je vous rappelle cette parole de Paul qui dit que la création entière attend la révélation des fils de Dieu. Elle est dans l'attente de cette révélation des fils de Dieu. Ok. Troisièmement, un troisième usage du mot « église » dans la Bible, c'est pour désigner l'église locale. Et c'est l'usage le plus courant dans la Bible, en fait. C'est pour désigner la communauté locale de gens qui se disent chrétiens. Et d'ailleurs, souvent, vous allez trouver ce mot au pluriel, les églises. Les églises, ça désigne les églises locales, les églises de telle ou telle ville. Parfois, en introduction des épîtres, vous avez l'expression « l'église qui est à Corinthe », par exemple, ou « l'église qui est à Rome ». Ça, c'est l'église locale, bien entendu. L'église locale, vous savez, ce n'est pas un concept, ce n'est pas une idée ou une réalité qui est optionnelle dans la Bible pour la vie chrétienne. L'église locale, c'est le contexte ordinaire dans lequel doit s'inscrire la vie de toute personne qui se dit chrétienne. On va y revenir à ça d'ailleurs dans un petit moment quand on va parler de la vie de l'église. Vous savez, un chrétien qui ne s'attache à aucune église, parfois on en rencontre, hein, c'est comme un joueur de triangle qui refuse de jouer dans un orchestre. Vous savez ce que c'est le triangle ? Ting, ting. Tout seul, ça sert absolument à rien. Un joueur de triangle qui refuserait par orgueil, vous savez, de jouer dans un orchestre, c'est absurde, c'est ridicule. Un chrétien qui ne s'attache à aucune église, c'est un peu comme ça. Ou encore, c'est comme un joueur de foot qui espère gagner la Ligue des Champions en formant une équipe à lui tout seul, en jouant à 1 contre 11. Impossible, absurde, ridicule. L'église locale, ce n'est pas une option pour la vie chrétienne. C'est le contexte ordinaire dans lequel doit s'inscrire la vie de tout chrétien. Et puis, donc, pour récapituler, on a l'église au sens eschatologique, c'est l'ensemble des élus. Donc Christ est le représentant auprès du Père, ok. On a ensuite l'Église au sens historique, c'est le peuple de Dieu sur terre, dans l'histoire, dont Jésus est le chef, bien que le peuple soit imparfait et qu'il ait des défauts, des taches, des rides, etc. Et puis on a l'Église au sens local, c'est la communauté dans laquelle s'inscrit la vie d'un chrétien, quel qu'il soit, ici-bas. L'Église locale, c'est l'expression locale de l'Église visible. Vous avez compris, ce n'est pas l'expression de l'Église invisible, mais bien de l'Église visible, parce que l'Église locale elle-même peut contenir des gens qui ne sont pas en réalité chrétiens, mais quand même qui se disent chrétiens. L'Église locale, c'est un morceau du peuple de Dieu dans l'histoire. Jésus en est le chef. Mais la question que je veux soulever maintenant, c'est comment savoir si telle ou telle institution locale qui se dit Église en est vraiment une. Eh bien, si Jésus en est vraiment le chef, et ça rentre dans la définition même de l'Église chrétienne, hein, Jésus est le chef, si Jésus est vraiment le chef de cette institution locale, cette petite communauté locale, alors cette communauté devrait être caractérisée par deux choses principalement, et vous allez me dire, c'est tout à fait logique. Premièrement, la fidélité de la communauté à la parole de son chef, logique, si c'est le chef, on obéit à sa parole, hein. On obéit à sa volonté. Et deuxièmement, sa fidélité au rite que le chef a institué pour son peuple. On va revenir à la question des rites ou des sacrements ou des ordonnances, selon le terme que vous préférez utiliser. Mais ces deux choses devraient caractériser l'Église locale qui est une vraie Église. La fidélité à la parole du chef, c'est-à-dire la fidélité dans la proclamation de la Bible, du message de la Bible, de l'Évangile, du message de la croix, du salut par la foi en Jésus-Christ, de tout ce qu'il a fait pour nous. Et il en découle, normalement, l'obéissance à cette parole lorsqu'elle est proclamée, enseignée. Elle doit aussi être mise en pratique avec l'aide du Saint-Esprit, évidemment. Puis la deuxième chose, quand j'ai parlé de l'obéissance au rite, c'est l'observation fidèle de ce qu'on appelle en théologie réformée les sacrements. Et il y en a deux, le baptême et la Sainte-Seine, on va y revenir tout à l'heure. Ça, ce sont les marques de la vraie Église. Une Église qui ne reconnaît pas l'autorité suprême et objective de la Bible, ou une Église qui n'administre pas fidèlement les sacrements, c'est comme un hôpital qui ne croit pas à l'hygiène. C'est absurde, et c'est dangereux. C'est comme un chauffeur de bus qui n'a pas son permis. C'est dangereux, c'est absurde. On doit s'éloigner des églises comme ça, vous savez. C'est ce qui nous permet de dire, par exemple, que les témoins de Jéhovah, les salles du royaume, etc., ce ne sont pas des églises chrétiennes. Parce qu'ils ont falsifié la Bible. Parce qu'ils reconnaissent une autorité supérieure à celle de l'Écriture sainte. C'est pour cette raison aussi, et là je veux choquer personne, mais les congrégations de l'armée du salut ne sont pas des églises. Elles n'administrent pas les sacrements, elles ne baptisent pas, elles n'administrent pas la Sainte-Seine. Ce ne sont pas des églises. C'est un ensemble de personnes qui peut-être se réunissent pour étudier la Bible, je ne sais pas, mais ce ne sont pas des églises, selon les marques bibliques de l'Église. Deuxièmement, le gouvernement de l'Église. Maintenant qu'on a peut-être une meilleure idée de ce que c'est que l'Église, en sachant qu'il y a plusieurs sens à ce mot en fonction du contexte, Maintenant qu'on sait à peu près ce qui doit normalement caractériser une église locale authentique, on va se poser la question de savoir comment cette communauté, comment l'église, comment l'institution peut-être de l'église doit être structurée, gouvernée. Qui fait quoi? Qui décide dans l'église? Premier élément très important, vous allez peut-être me trouver un peu redondant, mais c'est très important, on est très attaché à ça en tant que protestant. Jésus est l'autorité unique et suprême dans l'Église. Jésus est l'autorité unique et suprême dans l'Église. L'Église, dans la Bible, c'est un corps. Vous connaissez cette image du corps. Et un corps, ça n'a qu'une tête. L'Église n'a qu'une tête. C'est Jésus-Christ lui-même. Nul être humain ne peut occuper la fonction de Jésus dans l'Église. C'est une fonction, un office qu'il occupe dans l'Église qui est exclusif. Personne d'autre ne peut lui contester l'autorité qu'il exerce dans l'Église. Personne n'a une autorité, donc, qui surpasse celle de la Bible, qui est la parole de Dieu. La Bible, qui est représentée comme un sceptre, le sceptre de Jésus-Christ, le sceptre du roi des rois, le symbole même, l'emblème même de son autorité et de l'exercice de cette autorité. Donc Jésus règne dans l'Église, il déploie son autorité à travers son sceptre qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est parfois représentée aussi comme une épée à double tranchant qui sort de la bouche de Jésus dans le premier chapitre de l'Apocalypse, vous vous rappelez? Jésus se tient au milieu des églises comme ce personnage glorieux, on ne peut même pas l'imaginer, et de sa bouche sort l'épée à double tranchant qui est la parole de Dieu. Donc il n'y a pas d'autorité au-dessus de celle-ci. C'est ça qui a fait dire à Boileau, vous connaissez peut-être cet alexandrin de Boileau, qui dit, bon c'est peut-être un peu simpliste, mais ça m'est resté, il dit « Tout protestant est pape, une Bible à la main. » Tout protestant est pape, une Bible à la main. Bon, c'est peut-être, il y a peut-être quelques raccourcis là, mais vous voyez d'où peut provenir cette idée. Jésus est le chef, d'accord. Mais Jésus, et si vous étiez là la semaine dernière quand j'ai prêché sur le ministère des anciens, Jésus a des lieutenants qui sont chargés d'enseigner et de diriger l'Église au nom de Jésus-Christ, dans la soumission à sa volonté révélée dans la Bible, dans la soumission à son autorité. L'apôtre Pierre parle de faire paître le troupeau. C'est la meilleure métaphore qu'il ait trouvée, l'apôtre Pierre, pour décrire le ministère des anciens dans l'Église. Ces anciens, ces lieutenants de Jésus-Christ. Le berger, il fait quoi vis-à-vis de son troupeau? Il le conduit et il le nourrit. Il le conduit et il le nourrit. Ça, c'est le métier de berger. Eh bien, les anciens dans l'Église sont chargés de diriger le peuple, de conduire le peuple et de le nourrir, c'est-à-dire de transmettre le message de la Bible, d'enseigner le peuple. Les anciens sont des responsables locaux, d'accord? Les anciens sont des responsables locaux. On voit ça dans Actes 14, verset 23, où il est dit que, je ne sais plus qui dit à qui, mais l'expression c'est « tu dois nommer des anciens dans chaque église », dans chaque église. Donc chaque église a des anciens, d'accord? À part les apôtres, on ne voit pas, il me semble, hein, dans le livre des Actes, des anciens qui ont une autorité sur plusieurs églises locales à la fois. Les anciens ont un ministère local sur une église à la fois. Les apôtres, c'est un peu différent, mais on y reviendra peut-être. Les anciens sont censés exercer leur autorité de manière collégiale, pas une personne toute seule, mais de manière collégiale, ensemble, avec d'autres anciens à côté d'eux. Ils sont amenés parfois à exclure des personnes de la communauté. Alors ça, c'est pas très politiquement correct aujourd'hui, cette idée de la discipline ecclésiale. Dans les confessions de foi, ils parlent de censure. Parfois, les anciens doivent dire à quelqu'un dans l'église, « Non, toi, on ne peut pas te donner la Sainte Cène. On ne va pas te donner la Sainte Cène, parce que ta vie contredit ta profession de foi. Alors nous t'invitons à te repentir, à corriger ce domaine de ta vie qui est notoire, qui est une occasion de scandale dans l'église, et tu seras accueilli à la Sainte Cène. » Si la personne refuse, parfois les anciens sont amenés à lui dire « Écoute, tu n'es plus le bienvenu dans notre Église, car on ne peut pas te considérer comme un chrétien. Ta vie contredit la piété chrétienne. » Ça, c'est très, ça peut nous paraître assez violent, mais pourtant c'est une nécessité, et la Bible en parle. Hein. Je voudrais juste vous citer un extrait de la Confession de foi. Il y a un article consacré à la discipline ecclésiastique. Juste un extrait. Les censures ecclésiales sont nécessaires pour corriger et ramener les frères coupables, prévenir d'autres de commettre les mêmes fautes, éliminer le levain qui pourrait infecter toute la pâte défendre l'honneur de Christ et la sainte profession de l'Évangile et détourner la colère de Dieu qui pourrait, à bon droit, s'abattre sur l'Église si elle tolérait que l'Alliance et les sceaux de Dieu, donc ça ce sont les sacrements, soient profanés par des pécheurs notoires et obstinés. Il y a une dimension très pastorale dans cet article qui peut nous paraître dure, mais en même temps, il y a une dimension très très pastorale. On pourrait rapprocher ça du berger qui protège son troupeau contre les loups, contre les prédateurs. Parfois, ils doivent s'opposer et dire « Non, toi, tu n'es pas une brebis. Tu es un loup déguisé en brebis. Et on veut protéger les vraies brebis. » Vous voyez ? Le premier modèle d'ancien qu'on a dans la Bible, c'est très très intéressant, ça remonte à l'Exode, chapitre 18. Vous vous rappelez de cette histoire où Jéthro, le beau-père de Moïse, lui dit « Écoute, Moïse, tu vas t'épuiser à essayer de tout régler tout seul. » Alors il lui dit « Tu devrais nommer des gens, des responsables, déléguer ton autorité. » Et Moïse, effectivement, l'a fait. Il a délégué il a nommé des hommes, c'est bien précisé des hommes fidèles et droits, pour qu'ils exercent cette autorité, qu'ils jugent des affaires, des disputes, etc., et qu'ils transmettent aussi la volonté de Dieu qui était révélée à ce moment-là à travers Moïse dans la Torah, enfin dans la loi plutôt. Les anciens, on l'a vu la semaine dernière, doivent être aptes à l'enseignement parce qu'ils sont des représentants de Jésus chargés de transmettre sa volonté au peuple. C'est très très important. Alors imaginez un ancien qui transmet quelque chose en exerçant sa fonction qui n'est pas conforme à la volonté de Jésus. Vous voyez l'enjeu de leur travail, de leur fonction. C'est très sérieux, très sérieux. Les anciens ne sont pas du tout infaillibles, hein. Faut pas croire qu'ils sont infaillibles, loin de là. C'est pour ça qu'ils exercent leur ministère ensemble, comme un conseil à plusieurs. Et les anciens sont redevables à Dieu. Ils doivent répondre de ce qu'ils enseignent à la lumière de la parole de Dieu. Donc les membres même de l'Église peuvent confronter un ancien vis-à-vis de son enseignement, lui disant « Écoute, est-ce que c'est vraiment ce que dit la Bible ?» Et l'ancien doit prendre cela très très au sérieux. Mais les anciens quand même sont là pour parfois corriger ce qu'on a appelé l'hérésie, quand il y a une fausse doctrine, une doctrine anti-biblique qui circule dans l'Église, parfois les anciens sont amenés à la dénoncer. Et vous savez, l'hérésie, c'est pas seulement ce qu'on croit, c'est pas seulement des choses qu'on croit. L'hérésie, c'est parfois aussi des choses qu'on fait. Quand on pratique des actes qui sont contraires à la Bible, cela traduit le fait que l'on croit des choses qui sont contraires à la Bible. C'est une forme d'hérésie. Donc l'hérésie, c'est aussi bien des doctrines que des comportements. Je poursuis, il va falloir que j'essaye d'accélérer un peu. Déjà que ça va vite, il faut que j'accélère. C'est mal barré. Troisièmement, l'office de diacre. On est toujours dans cette partie sur le gouvernement de l'Église. La Bible présente une autre fonction à côté de celle d'ancien, celle dite des diacres. Les premiers diacres ont été institués dans l'Église dans le chapitre 6 du livre des Actes. Et on voit que les diacres sont chargés du service matériel dans l'Église. En fait, le cahier des charges des diacres, d'après Acte 6, c'est de servir aux tables. Ça se limite pas à ça, mais vous voyez, l'idée, c'est le service matériel. Ce n'est pas du tout une fonction méprisable. On verra ça la semaine prochaine, quand je vais apporter un message sur la suite de la première épître à Timothée, chapitre 3, où là, il va montrer quelles sont les exigences pour les diacres. C'est super exigeant aussi, si on veut pratiquer le ministère de diacre dans l'Église. D'accord ? Et j'ajoute aussi, entre parenthèses, une précision, c'est que la Bible admet les diaconesses, des femmes diacres. On a des exemples de cela, Romains 16, par exemple. Mais on a d'autres exemples, et on en parlera plus la semaine prochaine dans le cadre de la prédication. Les femmes peuvent être diacres. Dans les églises réformées, on a aussi un organe, celui du synode, parfois appelé le concile. Synode, le concile, dans les églises anglophones, on parle de presbytère, presbytery, qui est amené parfois à prendre des décisions. Donc les églises réformées ne sont pas des églises congrégationaliste. L'autorité des anciens dans l'église locale est très très importante. Mais en même temps, les églises réformées ne sont pas congrégationalistes, elles ne sont pas indépendantes. Dans la Bible, d'ailleurs, on voit nulle part l'idée d'une église qui soit indépendante des autres. On le voit nulle part. Au contraire, on voit la valeur de la consultation entre les églises locales. On voit ça dans Actes 15 et 16 en particulier, où là, il y a une grande consultation qui est organisée parce qu'il y a un point de doctrine qui doit être éclairci. Enfin, c'est plus de la par rapport au comment dire à la piété chrétienne qu'il y a un point à éclaircir. Alors, ils réunissent, ils font une grande réunion à Jérusalem, d'accord. Il s'agit de la question est-ce qu'il faut imposer aux païens qui se convertissent de se circoncire. Finalement, la décision, c'est non. On ne va pas leur imposer ça. Mais écoutez le résultat, acte 16, verset 4. Paul, donc, part avec une petite équipe. Et puis, verset 4, en passant par les villes, il transmettait les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem afin qu'on les observe. Verset 5, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Vous voyez la valeur qui est donnée à la consultation entre les églises. Paul et ses amis sont passés dans des églises locales, dans d'autres villes, et leur ont dit, écoutez, on a fait cette grande réunion à Jérusalem, on a pris des décisions, voici le résultat de nos délibérations, et on vous encourage fortement à mettre cela en pratique. En même temps, évidemment, les synodes et les conciles ne sont pas du tout infaillibles. Ils ne sont pas appelés à définir, la règle de la foi et de la vie chrétienne. Ça, c'est la Bible qui le fait. Les synodes sont soumis à la Bible. Et les églises locales, comme un membre d'une église locale est en droit de s'opposer à l'instruction d'un ancien s'il juge que cette instruction est contraire à la Bible, de même, les églises locales peuvent s'opposer à une décision synodale s'ils jugent qu'elle est contraire à la Bible. Il faut aussi se poser la question, quand un synode se réunit, est-ce que l'autorité de ce synode est légitime? Alors, je vais peut-être jeter un pavé dans la mare, hein, mais si le synode, les délégués au synode qui prennent les décisions sont aux trois quarts des femmes, par exemple, qui sont, ou même des hommes, mais qui ne sont pas du tout formés, totalement inaptes à l'enseignement, il y en a sans doute un grand nombre qui ne sont même pas des chrétiens, est-ce qu'on doit recevoir la décision du synode comme faisant autorité, ou est-ce qu'on doit plutôt peut-être modérer l'attention et la fidélité avec laquelle on va répondre à cette décision? Ce sont des questions, hein. D'ailleurs, la confession de foi de Westminster le dit clairement, les synodes sont censés être une aide pour la vie des églises locales. Ok, troisièmement, la vie de l'église. On sait maintenant à peu près ce que c'est que l'église et comment elle est structurée. L'église, c'est le peuple de Dieu dont Jésus est le chef. Jésus exerce son autorité par le moyen de sa parole, à travers ceux qui sont chargés de transmettre sa parole, c'est-à-dire les anciens. On a donc compris que le ministère de la parole est central dans la vie de l'Église. C'est pour ça que la prédication dans un culte, ça occupe un tiers, voire la moitié du temps, parce que c'est central. Le ministère de la parole est très important. Les études bibliques sont très importantes. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est censé caractériser la vie de l'Église? Premièrement, la communion des saints. Vous savez, quand on récite le symbole des apôtres, on dit croire à la communion des saints. Je crois à la communion des saints. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais, il y a beaucoup de gens qui le disent, mais ils ne savent pas exactement ce que ça veut dire. Ouais, c'est le symbole des apôtres, on le dit, c'est probablement vrai. Mais qu'est-ce que ça veut dire, je crois à la communion des saints? Ça veut dire, mes amis, comme ça vous le saurez pour la prochaine fois où on dit le symbole des apôtres ensemble, ça veut dire croire à l'unité de l'Église, une unité à caractère organique, dont la meilleure illustration se trouve dans la Bible, c'est l'image du corps, je l'ai dit tout à l'heure. La communion fraternelle entre les chrétiens, dans le cadre de l'Église, c'est de ça dont il s'agit quand on parle de la communion des saints, la communion fraternelle est définie par notre communion à Jésus, par la foi. C'est Jésus lui-même, rappelez-vous, Jean chapitre 17, qui a fait un parallèle entre l'unité qui existe entre les personnes de la Trinité, toi le Père en moi en toi, eux en moi et tous ensemble en toi, peut-être que je suis en train de paraphraser, mais il est en train de définir la communion fraternelle comme quelque chose de nature semblable à l'unité de Dieu lui-même entre les personnes de la Trinité, une unité indivisible. Ça implique pour tout chrétien un devoir d'amour pour ses frères, un devoir de solidarité, d'interdépendance et d'entraide. C'est ça la communion des saints. Cette communion doit s'étendre à tous ceux qui appartiennent à l'Église visible, pour autant qu'on puisse le discerner. Et donc, a fortiori, dans l'Église locale. A fortiori, dans le cadre de l'Église locale, qui est ce morceau de peuple de Dieu dans l'histoire. Où est-ce que j'en suis? Ah oui, les dons spirituels. Dans le cadre de cette communion, les chrétiens ont donc besoin les uns des autres. Hein, vous avez bien compris. Jésus nous équipe donc par l'Esprit à prendre soin les uns des autres pour le bien de l'Église tout entière. Dans 1 Corinthiens 12, versets 4 à 11, on a un passage classique sur les dons spirituels et sur l'unité de l'Église. Et là, Jésus dit que les dons spirituels sont donnés pour l'utilité commune, verset 7. L'Église a donc besoin, puisque c'est utile à l'Église, on peut dire que l'Église a besoin de choses différentes que l'Esprit va donner, va confier aux chrétiens, aux divers membres, pour que l'Église se porte bien. Mais ces choses dont elle a besoin, l'Église, peuvent varier en fonction du contexte dans lequel se trouve l'Église locale, en l'occurrence, quelle qu'elle soit. Et ce contexte peut varier en fonction de l'histoire, en fonction des circonstances, même politiques. Les besoins de l'Église locale varient en fonction du temps et du contexte. L'Esprit distribue d'ailleurs les dons, verset 11 de ce passage, comme il veut. L'Esprit les distribue comme il veut. Et j'ajoute que les listes de dons que nous trouvons dans la Bible, elles sont différentes les unes des autres, elles ne sont pas exhaustives. Donc moi, ça ne me gêne pas du tout de dire que quelqu'un a un don spirituel pour la musique. Eh oui, si il l'utilise pour la gloire de Dieu et que l'Esprit sanctifie cette capacité et équipe ce chrétien pour édifier l'Église à travers la musique, c'est un don spirituel. On n'est pas tenu de se limiter aux listes qui sont dans la Bible. Ceci dit, notre Église est dite, entre guillemets, cessationniste. Vous avez déjà entendu ce terme, cessationniste. Le cessationnisme, c'est une position théologique vis-à-vis des dons spirituels, et je vais tâcher rapidement, parce que le temps est en train de filer à une vitesse, c'est incroyable, je vais tâcher rapidement d'expliquer ce que c'est que le cessationnisme. Il y a certains dons mentionnés dans la Bible, qui ne sont pas mentionnés dans toutes les listes de dons spirituels, mentionnés par endroit dans la Bible, dont nous croyons qu'ils ne sont plus d'actualité aujourd'hui, pour des raisons précises. J'en mentionne trois en particulier, parce que c'est les trois dons dont on entend le plus parler aujourd'hui, qui sont peut-être un peu les plus controversés. Le don d'opérer des miracles ou des guérisons, premièrement. Le don de parler en langue, et par conséquent de les interpréter, deuxièmement. Et troisièmement, le don de la prophétie. Premièrement, les miracles. Ce que nous croyons, et on pourra en discuter après dans le moment de l'échange, si vous voulez. Dieu a utilisé les miracles à divers moments de l'histoire, dans un but précis. Il n'a pas utilisé les miracles dans tous les épisodes de l'histoire du peuple de Dieu depuis Abraham jusqu'à aujourd'hui. Hein. Il suffit de lire la Bible pour le voir. Il a utilisé des miracles à divers moments de l'histoire pour appuyer la véracité des oracles qu'il communiquait à ces moments-là à son peuple, ou parfois pour intervenir de façon particulière pour une raison particulière, comme les plaies d'Égypte. C'est un miracle extraordinaire. Dieu a utilisé ça dans un but précis. Ça ne veut pas dire que nous, aujourd'hui, on a le droit ou le devoir ou la mission de changer de l'eau en vin parce que quelqu'un, notre patron, n'est pas content avec changer le Rhône en sang parce que notre patron n'est pas content avec nous. D'accord ? Cela ne veut pas dire que Dieu n'opère plus de miracles aujourd'hui. Dieu opère des miracles comme bon lui semble. Il décide. Mais le don d'opérer des miracles, c'était la capacité qui était donnée à certaines personnes de faire des choses extraordinaires, et c'était particulièrement le cas pour les apôtres. Vous vous souvenez de ces choses incroyables? Ils faisaient des signes et des prodiges, et cela était censé attester la véracité des oracles qu'ils étaient appelés à communiquer pendant la période du Nouveau Testament. D'accord? Deuxièmement, les langues. Ce qu'on voit dans le livre des Actes, chapitre 2, c'est qu'on voit des chrétiens, des disciples réunis, qui reçoivent l'Esprit Saint et qui, à ce moment-là, parlent spontanément des langues humaines qu'ils n'ont jamais apprises. On voit que ce sont des langues humaines parce que les gens qui sont là, qui sont venus de divers endroits géographiques, les entendent et les comprennent. Ils disent « Ah, mais lui, il parle ma langue maternelle. Hein. Ah non, mais celui-là, il parle ma langue maternelle. » Donc, ce sont des langues humaines, hein, des langues terrestres. C'est ça qu'on voit dans la Bible. Ce sont les langues dans la Bible. J'aimerais pouvoir développer tout ça, mais il va falloir aller très vite. Ce qu'on voit aussi dans la Bible, c'est que les langues étrangères, lorsque Dieu, dans l'Ancien Testament, avait dit à son peuple qu'il allait leur parler dans des langues étrangères, c'était un signe de jugement contre son propre peuple. Pourquoi ? Parce que Dieu avait toujours communiqué en hébreu. Et là, il leur dit, vous allez voir un jour, ce sera par des langues étrangères que je vais vous parler. Et ça, c'était absolument choquant pour le peuple juif. Cela s'est réalisé lorsqu'ils ont été emmenés en exil. Partout autour d'eux, les gens parlaient d'autres langues, des langues païennes, des langues étrangères, des langues barbares. C'était déjà un jugement de la part de Dieu. Et Dieu a dit un jour, je vais même moi-même m'adresser à vous dans les langues étrangères. C'est ce qui s'est passé à partir de la Pentecôte. Des oracles de Dieu étaient transmis, des mystères étaient révélés dans des langues qui n'étaient pas la langue sacrée de l'Alliance. C'était donc un signe pour les Juifs du jugement de Dieu contre Israël à cause du rejet du Messie. Mais c'était aussi un signe de l'inclusion des païens, puisque maintenant on allait pouvoir parler de Dieu dans d'autres langues que l'hébreu, dans le grec, le latin, le français, le portugais, l'allemand, etc., etc. Et c'était aussi un signe avec une profonde signification théologique, le signe de l'inversion de la malédiction de Babel. Quand Dieu a donné ces langues étrangères comme une malédiction, comme un jugement, maintenant vous ne pourrez plus vous parler, plus vous comprendre. Alors les peuples se sont dispersés, se sont divisés. Mais Dieu inverse cela à partir de la Pentecôte en disant « Maintenant, je vais réunifier l'humanité, créer une humanité nouvelle par Jésus-Christ, par le pouvoir de l'Esprit-Saint. Maintenant, on parle de l'Évangile dans toutes les langues. » Alors, vous savez ce que c'est que le parler en langue aujourd'hui, si on veut vraiment s'en tenir à ce que c'est que parler en langue biblique, c'est quand on lit le Nouveau Testament en français. À chaque fois, chaque dimanche, quand je lis le Nouveau Testament en français, je suis en train de parler en langue pour un juif. Et si vous faites ça avec le portugais ou l'allemand, vous êtes aussi en train de parler en langue. Mais le don, ce don de communication, de mystère, dans des langues qu'on n'a pas apprises mais qu'on parle spontanément, n'est plus utile aujourd'hui grâce aux traductions de la Bible. Vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être que dans certains contextes, pionniers ou des missionnaires sont transportés dans des tribus où ils n'ont pas du tout la Bible dans leur langue, et puis peut-être que Dieu accorde ce genre de miracle, je ne dis pas le contraire. Mais quand on lit la Bible, on a l'impression en tout cas que les langues ont un but précis. Et puis la prophétie, troisièmement, d'après l'apôtre Pierre, les prophètes sont des gens qui parlent de la part de Dieu. Poussés par le Saint-Esprit, ils parlent de la part de Dieu. Ça, c'est la définition la plus claire qu'on ait dans la Bible de ce que c'est qu'un prophète. Dieu, à plusieurs moments de l'histoire, en commençant avec Moïse, et ensuite tout au long de l'histoire du peuple de Dieu, Dieu a communiqué des oracles, des révélations à son peuple par le moyen de gens qui étaient appelés à ça et qui ont pu transmettre en toute autorité ce que Dieu leur disait de dire. Ça, c'était des prophètes. Ils étaient mus par le Saint-Esprit pour dire de la part de Dieu des choses qui étaient absolument vraies. Et les apôtres ont eu ce don, et d'autres personnes ont eu ce don spirituel pendant la période apostolique, la période du Nouveau Testament, où c'était utile, vous savez pourquoi ? Parce que l'Église n'avait pas le Nouveau Testament. Par définition, ils avaient besoin que Dieu leur communique ces nouvelles vérités, ces fameux mystères dont Paul parle. Mystère, ça veut pas dire quelque chose qui est flou, ça veut dire quelque chose qui était flou et qui maintenant est révélé. C'est ça le sens biblique du mot mystère. Donc ces gens-là étaient appelés par Dieu à révéler ces nouvelles notions. Quand, par exemple, l'inclusion des païens dans l'Alliance, c'était incroyable, c'était révolutionnaire un peu, si j'ose dire. Donc les apôtres ont eu ce don de prophétie pour expliquer ces choses aux chrétiens. Et puis il y a d'autres choses comme ça. Donc, aujourd'hui, le don de prophétie, tel qu'il est défini dans la Bible en tout cas, n'est pas utile parce qu'on a le canon de la Bible en entier. Si quelqu'un lève la main et dit « Je suis prophète, Dieu m'a dit de dire ça », vous savez ce qu'on devrait faire ? On devrait rajouter un chapitre à la Bible. Si on ne rajoute pas un chapitre à la Bible, ça veut dire que ce gars qui se dit prophète n'est pas un prophète au sens biblique. Je suis d'accord pour dire qu'on peut peut-être parler de prophétie de façon un peu pragmatique pour désigner certains ministères dans l'Église, comme la prédication, etc. Mais je dirais qu'il faut faire attention à ça, parce que prophète, c'est un terme très sérieux dans la Bible. Donc je préfère parler de prédicateur, ou peut-être son ministère a un caractère prophétique, dans le sens où il va proclamer les vérités d'après la Bible. Mais prophète au sens biblique, c'est quelqu'un qui a des révélations directes de la part de Dieu et qui font absolument autorité. Mais j'insiste quand même sur ce point concernant le cessationnisme, après je tourne la page, c'est que les cessationnistes, ce n'est pas des gens qui cherchent à mettre Dieu dans une boîte, ce n'est pas des gens qui ont peur de l'action de l'Esprit dans l'Église, pas du tout. Ce sont des gens qui disent, on va regarder la Bible et voir ce que la Bible dit au sujet de certaines choses. Ce sont des gens qui croient absolument que Dieu peut faire exactement ce qu'il veut. Ce sont des gens, les cessationnistes, dont je suis, je ne sais pas pour vous, qui prient pour des miracles, qui prient pour des guérisons, qui les recherchent, qui obéissent à la parole. Quand l'apôtre Jacques dit, s'il y a un malade parmi vous, qu'il appelle les anciens, ils l'oindront d'huile et prieront pour sa guérison. On fait ça dans notre Église, parce que c'est ce que dit la Bible. Mais à côté de ça, on a des raisons de croire que certains dons ne sont pas à rechercher aujourd'hui, parce qu'ils ont épuisé, si j'ose dire, leur utilité que Dieu leur a destinée dans son plan. Ok, le culte maintenant. Il y a un rendez-vous important dans la vie de l'Église, c'est le culte. L'Église primitive allait au culte tous les jours, vous savez. On voit ça dans Actes 2, 42 à 47. Ils se rendaient au temple tous les jours. tous les jours. Vous voyez, c'est quelque chose d'important, ce n'est pas une option, le culte. Sinon, on se réunit une heure et demie tous les dimanches, c'est vraiment pas grand-chose comparé à la piété de ces premiers chrétiens. Hein. Le culte chrétien est façonné à la fois sur le culte de la synagogue, mais aussi sur le culte du temple. C'est au temple qu'ils allaient tous les jours, les chrétiens, dans Actes 2. C'est pas dit qu'ils allaient tous les jours à la synagogue, d'ailleurs il n'y aurait pas eu de réunion en dehors du samedi, mais ils allaient au temple tous les jours. Le peuple se réunit au nom de Dieu pour lui exprimer son adoration selon les conditions que Dieu lui-même a fixées et pour recevoir ses instructions. C'est pourquoi, au culte, on doit faire avant tout ce que Dieu nous dit d'y faire, c'est-à-dire quelque chose de relativement simple, prier, chanter, recevoir l'instruction de la Bible et célébrer les sacrements. Le culte, en définitive, c'est quelque chose de relativement simple, si on regarde ce que la Bible en dit. Je viens de mentionner l'importance, le devoir qu'on a en tant que chrétien et en tant qu'église de célébrer les sacrements. Cela m'amène donc au quatrième et dernier point sur vos plans. La raison pour laquelle j'ai essayé d'aller vite, c'est parce que ce quatrième point, c'est celui qui est le plus long. Ça paraît pas comme ça sur vos plans, hein, mais... Parlons des sacrements. Vous êtes peut-être pas très habitué à ce mot, peut-être que vous êtes plus habitué au mot ordonnance, je sais pas. Sacrement, le mot sacrement, c'est un mot qu'on utilise dans l'Église depuis le 4e siècle. Ça vient du latin sacramentum, qui veut dire mystère. Et vous l'avez compris, depuis le début de cet exposé, le mot mystère, c'est un mot qui est beaucoup employé dans le qui est employé régulièrement dans le Nouveau Testament pour parler des réalités dont il est question dans l'Évangile. Paul emploie même l'expression le mystère de l'Évangile. Traduit en latin, ça fait le sacrement de l'Évangile, dans Éphésiens 6, verset 19, par exemple. Alors, on hésite parfois à parler de sacrement à cause de la doctrine sacramentelle de l'Église catholique romaine avec laquelle on n'est pas d'accord. Alors, puisque les catholiques utilisent le mot sacrement, on s'est dit, nous, on veut dire un autre mot. Enfin, nous, pas les réformés historiques, mais un certain nombre d'églises. Moi, je pense qu'on peut tout à fait parler de sacrement. La confession de foi, toutes les confessions de foi, d'ailleurs, réformées, à l'exception de quelques-unes, utilisent le mot sacrement. Je pense qu'il convient, malgré tout, de définir le terme. La définition la plus simple du mot sacrement, ou de la notion de sacrement, c'est que ce sont des rites institués par Dieu pour l'Église du Nouveau Testament, des rites que Jésus a expressément commandé d'observer et qui sont destinés à tous les chrétiens, sans exception. C'est long comme définition. Des rites institués par Dieu pour l'Église du Nouveau Testament. Des rites que Jésus lui-même a expressément commandé d'observer et qui sont destinés à tous les chrétiens, sans exception. Et il n'y en a que deux qu'on voit dans la Bible. Deux rites que Dieu a institués pour l'Église du Nouveau Testament. Le baptême et la Sainte Cène. La théologie des sacrements dans l'Église réformée est très très riche. Je parle de l'Église réformée dans l'histoire, je ne parle pas forcément, même pas du tout des Églises réformées libérales aujourd'hui, qui n'ont pratiquement pas de théologie, sans même parler de théologie des sacrements. Mais dans l'histoire, la théologie réformée est très riche sur le sujet des sacrements. Écoutez juste cet extrait de l'article consacré aux sacrements dans la Confession de foi de Westminster. « Les sacrements sont des signes et des sceaux sacrés de l'Alliance de grâce, institué directement par Dieu pour représenter Christ et ses bienfaits, pour affermir notre attachement à sa personne, pour établir une distinction visible entre ceux qui font partie de l'Église et le reste des hommes, et pour engager solennellement les membres de l'Église au service de Dieu en Christ, selon sa parole. » Vous avez noté cette expression des signes et des sceaux. Sceaux, S-C-E-A-U-X, hein, les sceaux, pas les sceaux pour porter un, mais des sceaux comme des tampons. Il y a, en théologie réformée, une relation spirituelle entre le rite et la réalité qui est représentée dans le rite. Ou pour le dire autrement, entre le signe et la chose qui est signifiée par le signe. Il y a une relation spirituelle entre les deux. Dans la Bible, d'ailleurs, le nom de la réalité ou les effets de la réalité attachés au signe sont parfois même attribués au signe, ce qui est curieux. Par exemple, Jésus, quand il a institué la Sainte Cène, il a pris du pain et il a dit « Ceci est mon corps ». Et personne n'a dit « Menteur, ton corps était assis dans ta chaise ». Non, il a pris le pain, il a dit « Ceci est mon corps » parce qu'il a attaché au signe la réalité qui était signifiée par ce signe. Et parfois, on retrouve ça dans le langage du Nouveau Testament. Par exemple, Pierre, il dit, en parlant du baptême, il dit le baptême vous sauve. Hein, Pierre 3, 21, on va dire, mais Pierre, t'es un catholique ou quoi? Le baptême ne sauve pas, on le sait très bien. Mais c'est pourtant le langage employé. Si vous avez fait des études littéraires, vous savez comment on appelle cela. On appelle cela, c'est une figure de style qu'on appelle métonymie. Une métonymie. Attendez, je vais vous impressionner encore plus. C'est une métonymie bien particulière qu'on appelle une synecdoque. Donc quand on dit le baptême chrétien nous sauve, enfin quand on dit, quand Pierre dit que le baptême chrétien nous sauve, c'est comme si moi je disais boire ce verre me ferait beaucoup de bien. Ah bon? Comment est-ce qu'on peut boire un verre? Un verre c'est un objet dur, c'est du verre. Comment... Vous voyez ce que je veux dire? Boire ce verre me ferait beaucoup de bien. C'est une métonymie. Ou encore, la carte de ce restaurant est excellente pour le transit intestinal. Ah bon? T'as déjà goûté? Ou encore, ses cheveux blancs font de lui un homme respecté. Ah bon? Bah alors je vais me teindre les cheveux en blanc. C'est une métonymie. Il y a eu un débat, vous le savez peut-être, au moment de la réforme particulièrement, hein, entre les catholiques, les luthériens, les calvinistes et les zwingliens, pour savoir quelle était exactement la relation entre le signe et la réalité. Alors les catholiques disent, ben, le signe devient la réalité par magie. Les luthériens disent, non, la réalité est cachée dans le signe, elle est cachée dedans. Les Zwingliens disent, il n'y a aucune relation entre le signe et la réalité. Les calvinistes disent, la réalité accompagne le signe, pour ceux qui ont la foi. Je vais développer cette idée, d'accord? Dans un petit moment. Les sacrements sont ce qu'on appelle des moyens de grâce, des moyens que Dieu met à notre disposition pour nous communiquer sa grâce. Parmi ces moyens, on a la prière, par exemple. On a la lecture de la Bible, la méditation de la Bible, ou la prédication de la parole. Mais on a aussi les sacrements. Ces moyens n'ont pas de pouvoir en eux-mêmes, et leur efficacité ne dépend même pas de la piété de celui qui les administre. Vous savez, vous pouvez entendre une prédication hyper édifiante, peut-être même vous convertir, et puis le gars qui l'a prêché, il n'était peut-être pas chrétien lui-même. C'est possible, hein ? L'efficacité des moyens de grâce dépend du Saint-Esprit qui œuvre à travers notre obéissance à user de ses moyens, selon les instructions de Jésus, c'est-à-dire que l'Esprit Saint œuvre par le moyen de notre foi. Alors la Sainte Cène, c'est un rite de commémoration du sacrifice de Jésus, mais pas seulement. C'est un rite de commémoration du sacrifice de Jésus, mais pas seulement. En mangeant le pain et en buvant la coupe, qu'est-ce que nous faisons? Nous acquiesçons visiblement et tangiblement à l'Évangile. Lorsqu'on participe à la Sainte Cène par la foi, on en reçoit une réelle édification. Il y a, je l'ai dit, une similitude entre l'action de l'Esprit à travers la parole et son action à travers la scène. C'est une œuvre spirituelle opérée par l'Esprit par le moyen de notre foi. On est très fort, nous, pour dire la parole, c'est super important, il faut écouter la parole avec foi, et le Saint-Esprit, par le moyen de sa parole, va nous transformer, va nous édifier, va faire de nous des meilleurs chrétiens. Mais vous savez, cela s'applique aux autres moyens de grâce, et cela s'applique à la Sainte Cène. Quand nous venons à la Cène avec foi, nous recevons des bienfaits que le Saint-Esprit nous communique. C'est une œuvre spirituelle, d'accord ? Il nous édifie, et d'ailleurs, je vous renvoie à Jean, chapitre 6, où Jésus parle des effets de son corps et de son sang, et il emploie un langage qui peut paraître quand même assez surprenant, hein, en disant il faut manger mon corps et boire mon sang, quoi. Enfin, il dit ça, on se demande d'où. Enfin, bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais on voit la force du langage employé. Et à mon avis, il y a un lien évident là, entre le discours de Jésus dans Jean 6, quand il parle de lui-même en tant que pain de vie, et la Sainte Cène. Dans le cas de l'écoute de la parole comme de la réception de la Sainte Cène, l'hypocrisie est sévèrement dénoncée dans la Bible. La Sainte Cène n'est donc pas juste un symbole ni une simple commémoration. C'est pas juste un symbole ni une simple commémoration. C'est un signe et un sceau des bienfaits qui sont accordés à ceux qui placent leur confiance en Jésus. C'est un sceau qui confirme la réalité du salut qui appartient à ceux qui placent leur confiance en Jésus. C'est Dieu qui met un coup de tampon sur notre profession de foi. Vous comprenez ? C'est un signe aussi qui pointe vers notre véritable nourriture spirituelle, Jésus lui-même. Vous savez, la différence entre un symbole et un signe, c'est la différence entre une miniature et un panneau. Je vais m'expliquer. La différence entre un symbole et un signe, c'est la différence entre une miniature et un panneau. Vous pouvez acheter une miniature de la Tour Eiffel dans la plupart des magasins de jouets, enfin peu importe. Vous achetez une miniature de la Tour Eiffel. Vous pouvez la mettre sur une étagère chez vous. Vous pouvez même, si ça vous chante, vous incliner devant. Ça ne veut pas dire que vous avez visité la Tour Eiffel. Hein. C'est un symbole, c'est une miniature. Ce n'est pas la Tour Eiffel. Maintenant, vous pouvez aller à Paris, d'accord ? Et à l'approche de la Tour Eiffel, vous voyez un panneau qui indique Tour Eiffel. Alors vous levez les regards et que voyez-vous ? La Tour Eiffel, elle-même. C'est un signe. Le panneau est un signe. Ce n'est pas un symbole, ce n'est pas une miniature de la réalité. C'est un signe qui pointe vers la réalité et il y a une relation qui lie l'un à l'autre. Et de même, le pain et la coupe ne sont pas juste des éléments tangibles détachés de ce qu'ils représentent, des éléments purement symboliques, des espèces de miniatures du corps et du sang de Jésus. Ce n'est pas ça la scène. Ce sont, le pain et la coupe, ce sont des signes qui nous indiquent une réalité lorsqu'ils sont d'ailleurs consacrés à cet usage hein, dans le cadre de la Sainte Cène. Ce sont des signes qui nous indiquent une réalité. Cette réalité, c'est que Christ nous est réellement offert pour nourriture et nous recevons réellement tous les bénéfices de sa mort sur la croix si nous les recevons par le moyen de la foi. Mais l'Esprit Saint nous les communique par ce genre de moyens. Ok. Le baptême, le moment que vous attendez tous, le baptême. L'autre sacrement de l'Église du Nouveau Testament, c'est le baptême. D'ailleurs, d'habitude, on en parle dans l'autre sens, parce que le baptême, logiquement, précède la Sainte Cène. Mais moi, j'ai préféré parler de la Sainte Cène d'abord, parce que c'est peut-être, il y avait moins à dire, et le baptême, c'est plus controversé. Le baptême est un rite. Alors, si la Sainte Cène était un rite de commémoration, le baptême est un rite d'initiation. C'est pour cette raison qu'il n'a lieu qu'une seule fois. On ne répète pas un baptême. La Sainte Cène, ça se répète. Dans notre cas, ça se répète tous les dimanches. C'est un rite de commémoration. Le baptême, un rite d'initiation, par lequel on est solennellement reçu dans l'Église, mais pas seulement. Mais pas seulement. C'est aussi un signe et un sceau des bienfaits qui sont accordés à ceux qui placent leur foi en Jésus, particulièrement un signe et un sceau de la nouvelle naissance et de la purification des péchés. Le baptême implique donc, concrètement, qu'est-ce qui se passe lors d'un baptême ? On va symboliquement laver une personne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça qui se passe lors d'un baptême. Symboliquement, une personne est lavée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce qui représente la nouvelle naissance et la purification des péchés destinée à tous ceux qui placent réellement leur confiance en Jésus-Christ. Jusqu'ici, tout va bien. Je voudrais vous dire que notre Église, et vous le savez sans doute déjà, notre Église a une position dite pédobaptiste. Ça veut dire que nous baptisons les enfants des croyants. Nous baptisons les enfants des croyants. C'est une conviction que nous croyons ancrée dans l'Écriture sainte. Ce n'est pas une tradition, ce n'est pas une habitude, ce n'est pas une superstition. C'est une conviction que nous croyons ancrée dans l'Écriture. Et mon objectif, je vais vous l'avouer aujourd'hui, c'est de vous convaincre. Enfin, vous allez me dire, c'est logique quelque part. Si j'y crois, j'ai aussi envie de transmettre ce que je crois. Mais avant de le faire, j'aimerais vous inviter quand même à faire un effort. On doit tous faire ces efforts-là de temps en temps, c'est-à-dire de laisser de côté, pendant quelque temps, les préjugés que nous avons, qui sont peut-être culturels. Vous savez, l'Église évangélique, c'est aussi une culture évangélique. Mettons de côté nos préjugés, tout ce que nous pensons déjà savoir au sujet du baptême, et considérons l'éclairage de la Bible sur cette question. Et j'aimerais quand même, enfin, vous allez penser que je suis un peu audacieux et un peu présomptueux, mais j'aimerais quand même que vous soyez ouverts à la possibilité de changer d'avis sur cette question. Quoi. D'accord ? On devrait tous être ouverts par rapport à la possibilité de changer d'avis sur diverses questions, n'est-ce pas ? En termes de doctrine, et vous avez sans doute déjà changé d'avis sur certaines choses. Et moi, j'ai souvent changé d'avis, enfin, en termes de doctrine, le Seigneur fait son œuvre dans ma vie aussi. Alors, dans le cadre du Bon Dépôt, de cette série de rencontres, on a déjà posé quelques bases. On en est au 7e volet, donc il y en a 6 qui nous précèdent, et pendant ces 6 volets, on a posé quelques bases, des bases utiles à cette question. Des bases sur lesquelles je ne vais malheureusement pas revenir en détail, parce que déjà j'ai épuisé le temps qui m'était imparti, mais par exemple, l'idée que la révélation est continue, il y a une continuité de la révélation, il n'y a pas d'accident dans ce que Dieu fait dans le plan qu'il accomplit dans le monde ou pour son peuple. Il y a une continuité dans l'histoire du salut, depuis le premier chapitre de la Bible jusqu'au dernier. Il y a une continuité, une unité à la Bible. On a posé comme base d'ailleurs également l'idée que l'histoire de l'humanité pouvait être divisée autour de 3 grands axes. La création du monde, la chute de l'humanité et la rédemption. D'accord ? Voilà la structure basique de l'histoire du monde d'après l'Écriture, en tout cas en théologie réformée traditionnelle. On a aussi posé comme base, et c'est également important par rapport à la question du baptême, eh bien, la doctrine de la souveraineté de Dieu, la souveraineté absolue de Dieu. Et la doctrine également du décret éternel de Dieu, c'est-à-dire que rien n'échappe à ce qu'il a décrété éternellement. D'accord ? Dieu a décrété éternellement, notamment, qui serait sauvé. On n'a pas accès à cette information, mais la Bible parle de la prédestination. Dieu a élu, avant la fondation du monde, des gens pour qu'ils lui appartiennent. On n'a pas accès à cette information, j'insiste, mais c'est quand même une doctrine que nous croyons biblique. Bref, je voudrais aborder la question du baptême sous 3 angles. Je vais essayer d'aller vite, mais pas trop. L'angle de l'histoire du salut, premièrement. L'angle de la théologie systématique, deuxièmement. Et l'angle de l'histoire de l'Église, troisièmement. Accrochez-vous, hein. Je vous rappelle ce qu'on a vu dans le bon dépôt numéro 4. Intitulé « Le salut, ce que Dieu a fait pour nous ». Voici comment on avait résumé l'histoire du salut. Dieu crée Adam, Adam désobéit, et l'humanité souffre des conséquences annoncées à l'avance par Dieu. L'homme a perdu sa communion avec Dieu, ainsi que l'accès à l'arbre de vie. Dieu a exercé ses jugements, conformément aux dispositions de l'alliance qu'on appelle en théologie l'alliance des œuvres, l'alliance conclue avec Adam, d'accord, en vertu de laquelle, si Adam persévérait, eh bien, il serait récompensé, mais il n'a pas persévéré, il a désobéi et il est déchu. D'accord ? Dieu a exercé ses jugements conformément aux dispositions qu'il avait prévues. Et en même temps, il s'est empressé, si j'ose dire, de faire une promesse. Genèse 3, verset 15, ce verset qu'on appelle le proto-évangile, le verset où Dieu annonce à Adam et Ève que la descendance de la femme écraserait la tête du serpent. D'accord ? Et à partir de Genèse 3, verset 15, qu'est-ce qu'on attend ? On attend la venue de cette fameuse descendance qui va délivrer l'humanité en écrasant la tête du serpent. C'est ce qu'on attend. On est placé devant cette attente depuis le 3e chapitre de la Bible. Ensuite, chapitre 12 de la Genèse, un grand tournant. On a le personnage d'Abraham qui apparaît. Et Dieu fait une promesse sans précédent à Abraham et à sa descendance. Il lui promet un territoire béni, un peuple nombreux et une relation privilégiée avec Dieu. Cette promesse a une portée universelle. Rappelez-vous, toutes les familles de la terre seront bénies en toi, d'accord ? Elle s'accomplira pour tous ceux qui croient en Dieu, qui ont la foi, donc, et elle deviendra réalité à travers la venue et l'œuvre de la descendance promise. Et ensuite, par le moyen explicite d'une alliance, Genèse chapitre 17, où le terme alliance est employé à plusieurs reprises, Dieu dit « Je conclue mon alliance avec toi et avec ta descendance », par le moyen de cette alliance, Dieu s'engage à réaliser cette promesse. Il s'engage de façon sérieuse et unilatérale à réaliser cette promesse. Dieu ensuite, au cours de l'histoire du peuple de Dieu, va rajouter toutes sortes de dispositions essentiellement culturelles qui sont censées étayer tout au long de l'Ancien Testament sa promesse, comme le rite de la Pâque, les sacrifices, le tabernacle, il va envoyer des prophètes, voilà, il va étayer cette promesse tout au long de l'histoire du peuple de Dieu. Enfin, Dieu envoie son Fils accomplir une fois pour toutes ce qui était promis, et effectivement, il a écrasé la tête du serpent par sa mort et sa résurrection, permettant à tout homme de toute nation de recevoir par la foi le pardon de ses péchés et d'être scellé pour la vie éternelle en compagnie d'une multitude d'autres êtres humains dans un territoire béni et pour toujours dans une relation privilégiée avec Dieu. Là, on a atteint le chapitre 22 de l'Apocalypse, je ne sais pas si vous avez suivi, mais de Genèse 3 à Apocalypse 22, on n'a qu'une seule et même alliance de grâce, d'accord ? Un seul salut, un seul sauveur, un seul esprit, et j'ajouterai même un seul peuple, le peuple de Dieu. Alors comment la Bible répond-elle par conséquent aux questions suivantes ? Première question, qui est le père des croyants ? Abraham, Galates 3, verset 29. À qui l'évangile a-t-il été annoncé d'avance, d'après le Nouveau Testament ? À Abraham, Galates 3, verset 8. Qu'est-ce qu'Abraham a obtenu par le moyen de la foi ? Il a obtenu la justice, sa justification, Romains 4, verset 3. Sur quelle base Dieu a-t-il justifié Abraham ? Sur la base de l'œuvre de Jésus, Galates 3, verset 18. Quel signe Dieu a-t-il donné à Abraham pour sceller cette justice ? La circoncision, Romains 4, verset 11. Le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait reçue par la foi, Romains 4, verset 11. À qui ce signe était-il destiné ? D'après Genèse 17, à Abraham, qui a cru, mais aussi à sa maison, y compris ses enfants. Qui a donc porté le signe de l'alliance de grâce depuis Abraham jusqu'à Jésus ? Tous les membres masculins du peuple de Dieu, enfants compris. Quelle est la réalité spirituelle signifiée par la circoncision dans l'Ancien Testament ? Très important ça. Quelle est la réalité spirituelle signifiée par la circoncision dans l'Ancien Testament ? D'après Colossiens 2, verset 11, il s'agit de la purification des péchés et de la vie nouvelle rendue possible par Jésus. La circoncision du Christ, dit-il. Ça, c'est la réalité spirituelle. Il dit, vous n'avez pas été circoncis d'une circoncision faite par la main d'un homme, mais vous avez été circoncis de la circoncision du Christ, la réalité spirituelle. Et il dit, ça, c'est le dépouillement du corps de la chair, la purification des péchés, n'est-ce pas, et la vie nouvelle qui en découle. Quel est le rite qui signifie ces choses dans le Nouveau Testament ? Ce n'est pas la circoncision, c'est le baptême. Colossiens 2, verset 12. Réfléchissez d'ailleurs, entre parenthèses, à la succession des idées de Paul entre Colossiens 2, verset 11 et Colossiens 2, verset 12, entre ces deux versets, où il met en parallèle la circoncision et le baptême, autour de la réalité spirituelle que les deux signifiaient, c'est-à-dire la circoncision du Christ, la purification des péchés, c'est-à-dire, et la vie nouvelle. L'œuvre de Jésus inaugure-t-elle un élargissement ou un rétrécissement de l'alliance de grâce ? Un élargissement, Galates 3, versets 27 et 28. Qui est le peuple de Dieu depuis le Nouveau Testament ? D'après Pierre, c'est l'Église chrétienne, 1 Pierre 2, verset 10. Jésus exclut-il les enfants du royaume de Dieu ? Bien au contraire, Marc 10, verset 14. Les apôtres annulent-ils le principe de la solidarité familiale dans le Nouveau Testament, comme on la constate dans l'Ancien Testament ? Est-ce que le Nouveau Testament annule ce principe ? Pas du tout, 1 Corinthiens 7, 14, où Paul dit que les enfants des croyants sont saints, mis à part, ne sont pas comme les autres. Il y a un principe de solidarité familiale. Dernièrement, les enfants de croyants, ça c'est très important, les enfants de croyants sont-ils considérés dans le Nouveau Testament comme des chrétiens ? La réponse est oui. Éphésiens 6, versets 1 à 4. En vertu de tous ces éléments, mes amis, le signe de l'inclusion dans le peuple de Dieu n'est-il pas destiné aussi aux enfants de croyants ? Tout à l'heure, je vous distribuerai une feuille où il y aura toutes les questions que je viens de poser avec les références bibliques, d'accord ? Parce que j'ai conscience que ça va très très vite. Hein. Maintenant, je voudrais aborder la question sous l'angle de la théologie systématique. Et pour cela, ça va être sous la forme de 17 affirmations. C'est pas une blague, hein. 17 affirmations relativement courtes, mais des formules qui dans l'occurrence, ont moins à voir avec l'histoire du salut qu'avec vraiment la discipline de la théologie systématique. Et là, ça aussi, je vous le distribuerai. 17 thèses, comme Genèse chapitre 17, là où Dieu institue la circoncision. Ça, c'était un petit clin d'œil. Première thèse, le baptême chrétien n'est pas inséparablement lié à la conversion. On est d'accord, hein ? Même les baptistes les plus ardus, convaincus, sont d'accord. Le baptême chrétien n'est pas inséparablement lié à la conversion. On peut très bien baptiser quelqu'un, puis plus tard, on découvre que ce n'était pas du tout un vrai chrétien, même sur la base de sa profession de foi. Hein, d'accord. Deuxièmement, le baptême n'est pas la réalité. Le baptême n'est pas non plus la preuve de la réalité, mais le signe de la réalité. Le baptême en soi n'est pas la réalité, hein. Mais c'est le signe de la réalité. Ça ne prouve rien, le baptême non plus. C'est le signe de la réalité. C'est un signe qui pointe vers une réalité spirituelle. Troisièmement, le baptême est donc une marque reçue par quelqu'un qui annonce que cette personne est particulièrement concernée par la réalité en question dans son baptême. Jusqu'ici, je pense que tout le monde est d'accord. Tous les évangéliques sont d'accord. Quatrièmement, la réalité signifiée par le baptême, c'est notamment la nouvelle naissance, la repentance, le pardon des péchés et le don de l'esprit. Okay ? Cinquièmement, cette réalité intérieure et invisible, œuvre de Dieu, Cette réalité constitue l'objet de la promesse de l'alliance de grâce réalisée en Christ. L'alliance de grâce, c'est-à-dire l'alliance conclue avec Abraham, mais préfigurée par Genèse 3,15, le proto-évangile, n'est-ce pas ? Mais la substance, la réalité spirituelle, qui était l'objet de la promesse que Dieu a faite à Abraham, c'est cette réalité intérieure et invisible que Dieu opère. Nouvelle naissance, repentance, pardon des péchés, don de l'Esprit. Sixièmement, c'est par le moyen de la foi que l'on entre au bénéfice de cette promesse. On est d'accord. Par le moyen de la foi, on est d'accord. Le baptême n'accompagne pas, alors là on sera peut-être moins d'accord. Le baptême n'accompagne pas la foi, mais il accompagne la promesse. Si le baptême accompagnait la foi, comment on saurait qui baptiser ? Parce que qui peut vérifier la foi du candidat au baptême ? Qui ? On baptise donc sur la base d'une profession de foi, dont on ne peut pas prouver l'authenticité, vous êtes d'accord ? Donc le baptême n'accompagne pas la foi, mais il accompagne la promesse que Dieu fait à celui qui fait cette profession de foi. Vous êtes d'accord ? Vous voyez la logique ? Enfin, vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais vous voyez la logique au moins. D'accord. Le signe qui accompagnait la promesse de Dieu depuis Abraham, comme un sceau, comme un tampon pour attester l'authenticité, le fait que ça va vraiment se réaliser, et bien ce signe, c'était la circoncision qui était, vous le savez, administrée aux adultes comme aux enfants. Neuvièmement, la promesse était destinée... La promesse était destinée à ceux qui faisaient profession de foi en Dieu, ainsi qu'à leurs enfants, en vertu de la dimension fédérale de la famille, ou l'unité de la famille. C'est pour cette raison que dans Genèse 17, Abraham se fait circoncire, il a suivi Dieu par la foi, d'accord ? Il a reçu la promesse par la foi. Mais Dieu lui dit de faire circoncire ses enfants, mais aussi les serviteurs qui travaillaient dans sa maison, à cause de cette unité fédérale. Abraham, c'était le chef de sa maison. Tous ceux qui étaient sous son autorité, sous sa responsabilité, devaient être circoncis. Dixièmement, très important, ça c'est une affirmation centrale, et souvent on ne s'en rend pas compte. La réalité spirituelle, qui était signifié par la circoncision dans l'Ancien Testament. C'était notamment la nouvelle naissance, Deutéronome 30, verset 6, notamment la repentance, Lévitique 26, verset 40 et 41, ou Deutéronome 10, verset 16, ou Jérémie 4, verset 4, et on l'apprend dans le Nouveau Testament, c'était aussi la justification, Romains 4, verset 11, en ce qui concerne la justification d'Abraham. Bien sûr, la circoncision signifiait aussi l'appartenance du peuple à Dieu. Donc l'appartenance au peuple de Dieu, mais l'appartenance du peuple à Dieu. Deuxièmement, dans le Nouveau Testament, l'idée de l'unité de la famille perdure, ainsi que la notion de peuple de Dieu, ça on l'a déjà dit. Lorsque quelqu'un dit oui, treizièmement, à la promesse de Dieu, ses enfants sont comptés parmi les destinataires de cette promesse. Les destinataires de cette promesse, je n'ai pas dit les bénéficiaires, mais les destinataires de cette promesse, parce qu'ils appartiennent au peuple visible de Dieu. Les enfants des croyants appartiennent au peuple visible de Dieu. Je vous renvoie à ce qu'on disait au sujet de l'Église, l'Église visible. Les enfants de croyants appartiennent à l'Église visible. Ils sont destinataires de cette promesse. Dieu leur adresse cette promesse. Il a confié cette promesse à l'Église, à son peuple. Et les héritiers naturels de la promesse, ce sont les enfants des croyants. Quatorzièmement, la circoncision était le signe de l'alliance depuis Abraham, mais le baptême est le signe de l'alliance, de la nouvelle alliance depuis Jésus-Christ. Le Nouveau Testament n'interdit pas aux enfants de recevoir le baptême. Alors si quelqu'un pense que le Nouveau Testament interdit aux enfants de recevoir le baptême, j'aimerais bien recevoir cette information. Et la nouvelle alliance, en plus, est présentée comme étant moins restrictive que l'ancienne. Sur quelle base est-ce qu'on interdit donc le baptême aux enfants ? Seizièmement, presque fini, hein, le baptême ne représente pas d'abord la réponse du chrétien à Dieu, mais d'abord la promesse de Dieu au chrétien. La réponse du chrétien à la promesse de Dieu, c'est la foi. C'est ce qu'on espère en tout cas. L'autre possibilité, c'est l'incrédulité. Mais le baptême ne représente pas d'abord la réponse du chrétien à Dieu. Le baptême représente d'abord la promesse de Dieu au chrétien, à l'Église. Dix-septièmement, dernièrement, la vraie foi, et là-dessus je pense qu'on sera tous d'accord, la vraie foi peut venir avant, pendant ou après le baptême. Qu'on soit pédobaptiste ou non, je crois qu'on est d'accord là-dessus. Ça aussi, je vous le distribuerai. Je vais terminer rapidement. Vraiment, merci pour votre patience, je m'excuse parce que c'est un peu long. Mais du point de vue de l'histoire de l'Église, pour finir. À l'époque de Jésus, donc juste avant le commencement de l'histoire de l'Église proprement dite, juste avant la Pentecôte, à l'époque de Jésus, les Juifs pratiquaient un baptême, c'était le baptême des prosélytes, les gens qui n'étaient pas juifs, qui devenaient juifs. Ils devaient passer par certaines ablutions pour symboliser leur purification, le fait qu'ils n'étaient plus un peuple impur ou des personnes impures, parce que c'était comme ça qu'on considérait les païens, mais qu'ils étaient devenus purs. Ils pratiquaient ces ablutions et ils incluaient évidemment toute la famille. Donc, les parents se convertissaient, leurs enfants, ils n'avaient pas le choix, ils passaient par les ablutions aussi. Ensuite, à l'église primitive, on a des sources explicites. Les plus anciennes datent du tout début du 3e siècle. Voici ce qu'écrit Hippolyte de Rome, par exemple, au début du 3e siècle, dans un ouvrage qu'il a intitulé « La tradition apostolique ». Et il parle de la cérémonie des baptêmes qui avait lieu traditionnellement à Pâques. Voici ce qu'il écrit, Hippolyte de Rome. « On baptisera en premier lieu les enfants. Tous ceux qui peuvent parler pour eux-mêmes parleront. Quant à ceux qui ne le peuvent pas, leurs parents parleront pour eux ou quelqu'un de leur famille. » Fin de citation. Je vais peut-être sauter quelques autres exemples parce qu'on n'a pas trop le temps. Mais je pourrais vous citer Tertullien, Saint-Irénée, le Lyonnais, le Gone, ou Origène, parmi les pères de l'Église. Au début du 5e siècle, on a Saint-Augustin qui apparaît. Saint-Augustin qui fait référence, hein, pour les bons calvinistes que nous sommes. Et il se réfère au baptême des petits-enfants comme étant la coutume de l'Église. Je cite quand même, c'est très intéressant, voici ce qu'il écrit. « L'usage où l'Église, notre mère, est de baptiser les enfants doit être pris en sérieuse considération. Il ne faut ni le regarder comme inutile, ni croire qu'il n'est pas une tradition des apôtres. » Saint-Augustin, 5e siècle. Ensuite, vous connaissez l'histoire de l'Église un peu, l'Église établie a basculé dans pas mal de travers doctrinaux au cours des siècles. Mais il y a régulièrement eu des mouvements de protestation contre ces travers. Les précurseurs hein, de la réforme, les proto-protestants, si j'ose dire, comme les Vaudois, par exemple, 12e siècle, ou les disciples de John Wycliffe en Angleterre, 14e siècle, ou les disciples de Jan Hus en Bohème, 15e siècle. Tous ces mouvements, mes amis, étaient pédo-baptistes. Ils croyaient au baptême des enfants des croyants, et cela malgré l'incroyable persécution qu'ils subissaient de la part des catholiques et leur rejet catégorique et antagoniste de toutes les superstitions attachées à l'Église romaine. Arrive la réforme. Vous avez le mur des réformateurs à Genève. Les quatre statues représentent des pédobaptistes. Guillaume Farel, Calvin, Théodore de Bèze et John Knox. Puis on peut rajouter bien sûr les autres grands noms de la réforme, Pierre Viret, Martin Luther, bien sûr, Ulrich Zwingli en Suisse, et ainsi de suite. Dans les siècles qui ont suivi, on pourrait mentionner également les plus grands puritains, John Owen, John Cotton et d'autres. On pourrait mentionner le français François Turtin ou encore Jonathan Edwards, des noms que vous avez peut-être déjà entendus. Si on regarde les confessions de foi du 16e et du 17e siècle, les confessions de foi réformées, toutes celles que je vais vous citer sont pédobaptistes. Et ce sont toutes les confessions de foi, en fait, hein, entre 1560 et 1650. Donc pendant un siècle, toutes les confessions de foi étaient pédobaptistes. Le grand catéchisme de Luther, la confession d'Augsbourg, le catéchisme de Genève, le livre de la prière commune pour les anglicans, la confession de La Rochelle, la seconde confession helvétique, le catéchisme d'Heidelberg, la confession de foi des églises réformées wallonnes et flamandes, autrement connue sous le nom de confession belge, la confession de foi de Westminster, bien entendu, et même la déclaration de Savoie, qui est la confession de foi des églises congrégationalistes, des premières églises congrégationalistes. Toutes ces confessions de foi affirment le baptême des enfants des croyants. Et enfin, pour terminer, quelques noms de théologiens. Non, ça, je vais sauter, tant pis. Aujourd'hui, alors, je vous pose la question. À qui incombe la charge de la preuve dans cette histoire? À qui incombe la charge de la preuve dans cette histoire de baptême d'enfants? La Bible ne présente pas... Oui, pardon. La Bible ne présente pas, je le sais, d'ordre explicite pour baptiser les petits-enfants. Mais la Bible ne présente pas non plus d'ordre explicite pour ne pas baptiser les petits-enfants. L'histoire de la révélation montre que les enfants ont été inclus par Dieu dans l'alliance de grâce depuis Abraham au moins, de façon explicite. La théologie systématique explique que le baptême ne représente pas d'abord la réponse du chrétien à Dieu, mais d'abord la promesse de Dieu aux chrétiens. C'est pour cette raison qu'on reçoit le baptême. On ne se baptise pas, on reçoit le baptême, ou on se fait baptiser. Et enfin, le témoignage écrasant de l'histoire de l'Église et de la théologie révèle que le baptême des enfants des croyants ne procède pas, contrairement peut-être à certaines idées reçues, il ne procède pas de la superstition ou de la tradition des hommes. Ça, c'est faux. Alors, si vous n'êtes pas pédobaptiste aujourd'hui, moi, je vous conseille d'avoir d'excellentes raisons de ne pas l'être. Des raisons ancrées dans l'Écriture sainte. Et si vous n'avez pas ces raisons-là, alors examinez vos convictions sur ce sujet. Je vous y encourage parce que on ne devrait pas tenir pour conviction, on ne devrait pas avoir notre conscience liée par des choses qui ne sont pas dans l'Écriture sainte. Donc examinez vos positions et surtout examinez les raisons pour lesquelles vous les tenez. Dernière parenthèse sur la question de l'immersion, très rapidement. Certaines églises qui disent si vous n'êtes pas baptisé par immersion, vous n'êtes pas baptisé. Si ça, ce n'est pas de la superstition, je ne sais pas ce que c'est que de la superstition. Hein. Mais en tout cas, ils ont deux arguments pour ça. Premier argument, c'est que pour eux, le terme grec « baptizo » peut forcément dire « plonger » et « immerger » dans un liquide. Ça, c'est faux. Vous pouvez regarder dans Luc 11, verset 38, Marc 7, verset 4, Hébreux 9, verset 10, où ce terme est employé pour désigner manifestement autre chose qu'une immersion. Deuxième argument invoqué, c'est que le baptême est censé représenter l'ensevelissement avec Christ et la résurrection. D'accord, c'est vrai, la Bible fait ce parallèle, mais la Bible fait d'autres parallèles pour le baptême, comme la purification des péchés. Et si on veut être honnête, comme Jonas d'ailleurs nous l'a rappelé il y a quelques semaines, la symbolique de l'eau dans tout l'Ancien Testament est d'abord une symbolique de purification. Et toutes les ablutions, la plupart en tout cas des ablutions que l'on voit dans l'Ancien Testament, que ce soit par l'eau ou par le sang, ce sont des aspersions, ce sont ou des lavements, ou des lavages, je ne sais pas ce qu'on devrait dire plutôt, mais bref. Voilà, en tout cas, l'immersion n'est pas nécessaire, mais elle est possible, bien entendu, on peut être baptisé par immersion, il n'y a aucun problème à ça, mais on peut aussi être baptisé par aspersion. Ok, je conclue, et puis je conclue. Vous avez la référence que je comptais lire, mais ça serait un peu long. Mais j'espère en tout cas qu'en entendant le mot « église », maintenant, vous allez penser, moi aussi, un peu plus à ce que la Bible dit de l'église. L'église, le peuple de Dieu, le peuple qui porte son nom, qui a une relation privilégiée avec lui, et qui lui appartient en propre. Et à la tête de ce peuple, il y a Jésus. J'ai apporté quelques livres, je les laisserai sur la table. Peut-être que le mieux, c'est que vous les consultiez après le culte, parce qu'il est déjà 16h, mais je voudrais quand même avoir un temps de questions et de questions ensemble. La parole est à vous.